France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Barbara Alotto, José Bernays, Éric Carrère et Olivier Déhay. Voici la deuxième des émissions que nous consacrons cette semaine à quelques femmes violentées dans l'opéra, les héroïnes de ces opéras, et nous commençons ce deuxième volet avec un opéra qui porte le crime dans son titre, c'est L'Enlèvement au sérail de Mozart, conçu en 1782 sur un livret de Gottlieb Stephanie, 2 ans après le Singspiel inachevé Zaïd de Mozart, dont nous écoutions hier un extrait sur le même thème des esclaves européennes ou africaines enfermées dans des harems turcs. C'est encore le cas ici avec L'Enlèvement au sérail, où la jeune Constance, fiancée à Belmonte, a été enlevée par des pirates et vendue au pacha Selim, qui tente ici de l'apprivoiser en lui disant: Constance, toujours aussi triste, toujours en larmes, vois cette belle soirée, ce ravissant paysage, cette charmante musique, songe au tendre amour que j'éprouve pour toi, n'y a-t-il rien qui puisse enfin t'apaiser, rien qui puisse émouvoir ton cœur?
Immer noch traurig, geliebte Constanze, immer in Tränen? Sieh, ich könnte befehlen, könnte grausam mit dir verfahren, aber nein, Constanze. Dir selbst will ich dein Herz zu danken haben. Dir selbst.
Großmütiger Mann, oh, dass ich es könnte.
Sag, Constanze, sag, was hält dich zurück?
Du wirst mich hassen.
Nein, ich schwöre dir's. Du weißt, wie sehr ich dich liebe.
Oh, verzeih.
Ach, ich lieb, war so glücklich. Thank you.
j'aimais, j'étais si heureuse et ne connaissais pas les souffrances de l'amour, je lui jurais fidélité au bien-aimé et lui donnais tout mon cœur, mais ma joie disparut vite, la séparation fut mon lot amer, et maintenant mes yeux sont noyés de larmes, je ne connais plus que le souci. Voilà ce que chantait Constance avec la voix de Luba Orgonasova, avec John Elliott Gardiner dirigeant les solistes baroques anglais dans cet extrait du premier acte de l'enlèvement au sérail de Mozart. Donc voici un autre extrait, j'évoquais tout à l'heure et nous l'entendions, la voix de Selim le Pacha, qui est le gentil parmi les méchants, ce que Rameau et son librettiste ont appelé le turc généreux dans les Indes galantes. Et puis il y a le méchant parmi les méchants, c'est Osmine, avec une voix de basse, le gardien du sérail, qui convoite Blonde, autre esclave du harem, ici interprété par Cynthia Seddon.
Kifft und Teufel!
Und des Zankens, Befehlens und Murrens wird auch kein Ende.
Sei still, geh ins Haus! Ins Haus, sag ich!
Denkst du, alte Murrkopf, etwa eine türkische Sklavin vor dir zu haben? Oh, da irrst du dich sehr. Europäischen Mädchen begegnet man ganz anders.
Thank you.
Tu t'imagines sans doute avoir devant toi une esclave turque qui tremble à tes ordres. Tu te trompes lourdement, on ne folâtre pas de la sorte avec les Européennes. Avec elles, il faut s'y prendre tout autrement, déclare Blonde dans son récitatif avant de chanter l'air. Par la douceur et les caresses, l'amabilité et les plaisanteries, on conquiert aisément le cœur des bonnes filles. Mais les ordres rageurs, le vacarme, les querelles, les tourments font fuir en peu de jours l'amour et la fidélité. C'est donc Cynthia Sidon qui interprétait cette air de l'enlèvement au sérail de Mozart avec les solistes baroque anglais dirigé par John Eliot Gardiner. Enlèvement et séquestration, il en est question en 1791, année de la mort de Mozart, dans un opéra, une comédie héroïque présentée à Paris en pleine révolution sous la plume de Luigi Cherubini qui propose l'archétype de ce qu'on va appeler l'opéra à sauvetage. Il s'agit de sauver une jeune fille enlevée et prisonnière. Ici, cette jeune fille, eh bien, c'est Lodoïska, l'héroïne éponyme de cet opéra, prisonnière du baron de Dourlinski, Lodoïska, ici interprétée par Nathalie Manfrino, avec le Cercle de l'Harmonie dirigé par Jérémy Rohrer.
Pour moi, c'est s'exposer. J'amourais.
Jérémy Rohrer dirigeait le Cercle de l'Harmonie pour accompagner la voix de Nathalie Manfrino dans le rôle titre Lodoïska dans cette partition de Cherubini créée en 1791 et dont l'esprit de cette pièce à sauvetage m'a inspiré beaucoup d'autres partitions, parmi lesquelles Fidelio de Beethoven.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voici maintenant des femmes victimes d'un vampire. Il ne s'agit pas de Nosferatu, de Murnau. Il s'agit d'une partition qui a été conçue un siècle avant ces histoires de vampires du cinéma muet. C'est en 1828 que Heinrich Marschner présente au public de Leipzig une partition qu'il a conçue sur un livret d'un certain Wilhelm August Wolbrook. Der Vampir, c'est Lord Ruthven qui descend sur Terre pour avoir quelques victimes sous ses dents. Il se précipite dès le début de cette partition sur la jeune Yante et lui plante aussitôt ses canines dans le cou. Alors on la recherche. Wo kann sie sein? Où peut-elle être?
Es mag es irre, wie mein Kind, wie mein Kind. Später Mitternacht vermisst ich es im Hause. Sicher haben Räuber sie entführt. Wer ihre Spur entdeckt, ich schwöre es euch, ihm wird des Vaters heißer Dank. Doch wehe, welchen Ort betraten wir? Wir hausen böse Geister seit Jahrhunderten. Die Pfand der Hölle nennt ihn das Volk. Schwinden, Angst und Freude macht mich beben. Wie werd ich sie wiederfinden? Meines Kindes, hier nimm deiner Taten Lohn. mein Kind, ermordet, mein Kind, ermordet.
Oui, he is taught and murdered. Le vampire, Lord Ruthven, s'est précipité sur la jeune Jante. C'était Franz Hawlata dans le rôle titre d'Air Vampire de Heinrich August Marschner. Anke Hoffmann chantait, ou plutôt criait, la jeune Jante. Et puis c'était le père qu'on entendait, le pauvre père Berkeley, interprété par Yong Chang Na dans cette partition de 1828, interprétée par l'Orchestre Symphonique et le chœur de la radio WDR de Cologne, dirigé par Helmut Froschauer. Nous avançons dans le temps avec Giuseppe Verdi, chez qui les femmes violentées sont nombreuses. On a l'occasion de le constater hier, on l'entendra tout au long de la semaine. En voici une qui a été présentée en 1862 sur un livret de Francesco Maria Piave. Il s'agit de Leonora dans La force du destin. C'est un opéra qui dépeint ce qu'on surnomme parfois de façon abusive un crime d'honneur. Un frère assassine sa sœur pour laver l'honneur de la famille. Leonora aime Alvaro, qui malheureusement a accidentellement tué le père de Leonora, qui d'ailleurs s'opposait à ce mariage. Et ce père est aussi le père de Carlo, le frère de Leonora. Donc Carlo veut se venger non seulement d'Alvaro, mais aussi de sa sœur. Alvaro refuse tout d'abord le combat avec Carlo, mais il y est contraint et il le blesse mortellement. Seulement Carlo a encore assez de force pour poignarder sa sœur quelques minutes plus tard. C'est cela, la force du destin, chantée ici par Piero Cappuccilli dans le rôle du frère meurtrier. L'amant de Leonora, c'est Carlo Bergonzi, ténor, et Leonora Martina Arroyo. Thank you.
voce. Ah no, uno spettro!
Oh,
Leonora!
Sangue mio, e tutta mannaria vendita.
Un extrait de La Force du Destin, en tout cas la fin de cette partition de Giuseppe Verdi, créée en 1862, ici interprétée par Martina Arroyo dans le rôle de Leonora, Piero Cappuccilli chantait son rôle, son frère Carlo, baryton, et le ténor Carlo Bergonzi était Alvaro avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres, dirigé par Lamberto Gardelli. Hier, nous entendions un extrait de Ruslan et Ludmila de Glinka. Tous les jours, je vous proposerai dans cette série d'émissions sur les femmes violentes à l'opéra, des extraits d'opéra russes. Voici maintenant la Revanchtchina de Modest Moussorgski, partition inachevée, reconstituée, terminée par d'autres compositeurs comme Nikolaï Rimsky-Korsakov. Ici, c'est la version du Bolchoï dirigée par Boris Raikin que je vous propose d'entendre. Revanchtchina vient de Rovansky, Andrei Rovansky, qui était le chef d'un régiment militaire qui s'est révolté contre l'autorité en place. Ce Rovansky se livre ici à du harcèlement sexuel sur la pauvre Emma. La colombe n'échappera pas au cerf du faucon. Il faut l'intervention de Marfa, une autre femme, pour que Andrei Kovansky cesse cela, mais en tout cas, il menace de son couteau Marfa. Toute cette scène de violence est interrompue par le propre père d'Andrei Kovansky, le prince Ivan. Voici un extrait de cette partition avec le Bolchoï dirigé par Boris Raikin.
Словно за малым птенцом
Je saurais bien te faire taire, importune femelle. Connais-tu l'histoire de certains jouvenceaux qui, lassés de son amante, c'est le hardi gaillard, débarrassé d'elle sans détour, une lame acérée à la main, déclare Andriy Rovansky, avec un poignard avec lequel il s'élance sur Marfa, qui saisit ce poignard et arrive à parer le coup. Un extrait de la Rovanchtina de Modest Moussorgsky avec Tamara Sorokina dans le rôle de la pauvre Emma, victime d'une tentative de viol. Irina Arhipova chantait Marfa, et Vladislav Piavko interprétait le prince Andriy Rovansky.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Tentative de viol par la force physique, en voici une autre, cette fois-ci par le chantage. C'est l'infâme Scarpia, chef de la police romaine, qui détient dans ses prisons le peintre Mario Cavaradossi, accusé de trahison et menacé du peloton d'exécution. Scarpia tient devant lui la fiancée de Mario, la chanteuse Floria Tosca. Il s'agit bien sûr de Tosca de Puccini, créée en 1900. Tosca, un peu naïve, demande à Scarpia quelle somme d'argent il souhaite pour la libération de Mario. Combien Quanto, demande Tosca, chantée ici par Katia Ricciarelli, mais c'est une autre forme de rémunération qu'attend Scarpia, alias Ruggero Raimondi.
Quanto?
Quanto?
Il prezzo!
Mi di convenare.
Vissi d'arte, vissi d'amore. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour, je n'ai jamais fait de mal à âme qui vive. Par une main cachée, j'ai soulagé toutes les misères que j'ai rencontrées. Toujours avec une foi sincère, ma prière est allée vers le Saint Tabernacle. Toujours avec une foi sincère, j'ai offert des fleurs à l'autel en ce temps de douleur. Pourquoi, Seigneur, m'en récompenses-tu ainsi? J'ai offert des joyaux pour le manteau de la Madone et offert mon chant aux étoiles, au ciel qui en resplendissait encore plus beau en ce temps de douleur. Pourquoi, Seigneur, m'en récompenses-tu ainsi? Chante Tosca, soumise à l'odieux chantage de Scarpia, mais qui en guise de baiser donnera à Scarpia un fatal coup de poignard, le fameux baiser de Tosca. C'était Katia Ricciarelli avec Ruggiero Raimondi en Scarpia dans cet extrait de Tosca par l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan.
Je te dis que je n'en veux rien faire, je suis le maître, il faut te taire.
Il faut te dire, moi, qu'il faut m'obéir, je suis l'anse de te servir.
Ah, avoir une femme est une sotte affaire. Et Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon.
Voyez donc l'habile homme avec son Aristote.
Oui, sans doute, habile homme, autant qu'on te croit sotte. Moi, je te prie, un faiseur de fagots, qui sache comme moi raisonner sur les mots, qui se puisse vanter d'avoir un homme sage, servi 10 ans publiquement, un fameux médecin, et qui dans son jeune âge est su par cœur son rudiment.
Peste de fou fief,
peste de la coquine, qui me fit signer ma ruine.
Les gens sont pris,
ma pauvre demeure.
Les gens sont
pris, ma pauvre demeure. Je crève d'ennui, je crève d'ennui, je crève
d'ennui.
Maudite soit l'heure où je m'avise d'aller dire oui.
Maudite soit l'heure
où je m'avise d'aller dire oui.
C'est bien toi qu'il faut plaindre.
Te sied bien le gendre.
Un traître, un foudre, un enlâché qui me mange tout ce que je fais.
Simon, j'en bois une partie.
Qui passe au cabaret sa fille.
C'est que j'y suis mieux qu'au logis.
Un ivrogne dont je bougis, qui vendrait notre lit pour boire.
Tu t'enlèveras plus matin.
Un misérable, un libertin. Pour le pays connaît l'histoire, et qui sans encombre m'arrache, barricade au fond sur les bras.
S'il te gêne, mets-les à terre.
Les malheureux, meurent de faim, et pleurent pour avoir du pain.
On les fait taire, on les fait taire, on les fait taire, on les fait taire.
Les gens sont pris,
ma pauvre demeure. Je crève d'ennui, je crève d'ennui, je crève d'ennui.
Maudite soit
l'heure où je m'avise d'aller dire oui.
Maudite soit
l'heure où je m'avise d'aller dire oui. Ma femme, doucement, calmez l'ardeur qui vous emporte.
Que j'endure éternellement ton insolence et ton ivrognerie.
Ne nous fâchons point, je vous prie.
Que je ne sache pas te venger ou te voile.
Ma femme, vous devez savoir que je n'aime pas la grimace et que j'ai le bras assez bon.
Je me moque de toute menace.
Ma chère âme, gare au bâton.
Tu me forces à me taire.
Votre peau, ma douce moitié, vous démange à votre ordinaire. Je vais vous frotter sans pitié.
Ivrogne,
ma petite femme,
sacrement,
je vous recevrai.
Voilà,
je vous étrillerai.
Oui, insolent, mondain, infâme.
Vous en voulez donc, cher trésor de mon âme? Eh bien, en voilà. Acceptez cela, acceptez cela. Si l'on vous bâtonne, mon cœur, ma mignonne, les goûts qu'on vous donne sont pour votre bien. Pour
calmer l'orage, pour vous rendre sage, je sais faire usage du bois que je tiens. Oui, je sais faire usage du bois que je tiens. De vous apaiser. Voilà le moyen, voilà, le bon moyen, le vrai moyen, le seul moyen. Voilà le bon, le vrai, le seul moyen.
Voilà, une des plus célèbres femmes battues de l'histoire du théâtre français, c'est Martine au début du Médecin malgré lui de Molière, adaptée par les librettistes Jules Barbier et Michel Carré pour le compositeur Charles Gounod. Ce Médecin malgré lui était interprété par Jean-Christophe Benoît en Sganarelle, Martine interprétée par Janine Capderoux avec l'orchestre lyrique de l'ORTF dirigé par Jean-Claude Hartmann. Martine qui va plus tard dans la pièce renvoyer un personnage secondaire, Monsieur Robert, venu s'interpréter. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Il me plaît d'être battu. Seulement, après le départ de Sganarelle, elle déclarera « Je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes ». Alors voici une autre femme battue et même une femme martyre. Il s'agit de Anne Boleyn, célèbre reine d'Angleterre, épouse du roi Henri VIII, qui a fait exécuter deux de ses six épouses, Anne Boleyn et Catherine Howard. Anna Bolena de Gaetano Donizetti sur un livret de Felice Romani composé en 1830 et qui évoque les derniers jours de cette reine le 19 mai 1536.
Thank you.
je prends mon congé du monde et de vous tous, et je vous demande du fond du cœur de prier pour moi. À Jésus-Christ, je recommande mon âme. Jésus, recevez mon âme. » Voilà ce qu'aurait déclaré Anne Boleyn avant de mourir sous l'épée du bourreau. Le 19 mai 1536, Anne Boleyn chantée par Marina Rebecca avec le chœur et l'orchestre du théâtre Massimo de Palerme dirigé par Yader Bignamini. C'était la fin de Anna Boleyn de Gaetano Donizetti sur un livret de Felice Romani qui évoque donc la mort de cette reine épouse d'Henri VIII, accusée d'adultère, d'inceste ou autre trahison. Et tout cela au son des cloches du mariage d'Henri VIII avec Jeanne Seymour, comme on l'entendait tout à l'heure. Alors voici un autre mari violent, certes pas meurtrier, mais en tout cas très impressionnant. Il s'agit de Hunding dans Le Ring de Wagner. Sieglinde est la sœur de Siegmund, avec qui elle concevra Siegfried dans une union incestueuse. Sieglinde a été mariée de force au violent Hunding, chanté ici par Gert Nistedt avec l'orchestre de Bayreuth dirigé par Karl Böhm.
Ich weiß ein wildes Geschlecht. Nicht heilig ist ihm, was andern hehr. Verhasst ist es allen und mir. Zur Rache hat ich gerufen, Sühne zu nehmen für Sippenblut. So spät kam ich und kehrte nun heim, des flüchten Frevlers Spur im eigenen Haus zu erspähen. Mein Haus hütet Wölfin, die scheut, für die Nacht nahm ich dich auf. Mit starker Waffe doch wehre dich morgen, zum Kampfe ließ ich den Tag. Der Tote zahlst du mir Zoll. Gott auf die Zahl, sei mir nicht, die Nacht drauf röste wird wen und habe ein zur zeigt sich der Mann. Ich, Wölfin, treffe ich morgen. Mein Wort hörtest du. Hüte ich
Gert Ninstedt chantait le rôle de Hunding dans cet extrait de La Valkyrie de Richard Wagner avec l'orchestre de Bayreuth dirigé par Karl Böhm. Systématiquement, ces maris violents, ces hommes criminels à l'encontre des femmes sont des barytons ou des basses. Debussy ne fait pas exception à la règle en confiant à un baryton basse le rôle de Golo, le légitime époux de Mélisande, à qui elle préfère Pelléas, le demi-frère de Golo. Golo, qui ne supportant pas cet adultère, s'empare des fameux cheveux de Mélisande pour la maltraiter, les cheveux qui tombaient le long de la tour et que Pelléas avait langoureusement caressés. Golo fait allusion à Absalom, personnage de la Bible, qui avait des cheveux longs et qui, lors d'une course-poursuite, s'était pris les cheveux dans des branches. Voici donc un extrait de ce Pelléas et Mélisande avec José Van Damme dans le rôle de Golo, Maria Ewing en Mélisande et Jean-Philippe Courtis dans le rôle du vieil Arkel. L'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Claudio Abbado, Pelléas et Mélisande de Claude Debussy d'après Maurice Maeterlinck.
Pelléas, par ce soir, tu as du sang sur le front. Qu'as-tu fait?
Rien, rien. J'ai passé au travers d'une œil d'épine.
Baissez un peu la tête, Seigneur. Je vais essayer votre front.
Je ne veux pas que tu me touches, entends-tu? Attends! Je ne te parle pas. Où est mon épée?
Je venais chercher mon épée.
Apporte-la. On vient encore de trouver un pigeon mort de faim le long de la mer. On dirait qu'ils tiennent tous à mourir sous nos yeux. Eh bien, mon épée. Pourquoi tremblez-vous ainsi? Je ne vais pas vous tuer. Je voulais simplement examiner la lame. Je n'emploie pas l'épée à ses usages. Pourquoi m'examinez-vous comme un pauvre? Je ne viens pas vous demander l'aumône. Vous espérez voir quelque chose dans mes yeux sans que je voie quelque chose dans les vôtres. Croyez-vous que je sache quelque chose? Voyez-vous ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être riches.
Je n'y vois qu'une grande innocence.
Une grande innocence. Ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les yeux d'un agneau. Ils donneraient à Dieu des leçons d'innocence. Une grande innocence. Écoutez,
j'en suis si près que je sens la fraîcheur de leur cils quand ils clignent. Et cependant, je suis moins loin des grands secrets de l'autre monde que des plus petits secrets de ses yeux.
Une grande innocence, et quelle innocence!
On dirait que les anges du ciel y célèbrent sans cesse un baptême.
Je les connais, ces yeux, je les ai vus à l'œuvre. Fermez-les, fermez-les, je vais les fermer pour longtemps.
Ne mettez pas ainsi votre main à la gorge. Je dis une chose très simple.
Je n'ai pas d'arrière-pensée. Si j'avais une arrière-pensée, pourquoi ne la dirais-je pas? Ha ha!
ne tâchez pas de fuir ici. Donnez-moi cette main. Ah, vos mains sont trop chaudes. Allez-vous-en, votre chair me dégoûte. Allez-vous-en. Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre à genoux. À genoux devant moi. Ah, ah, oh, je sais que t'en quelque chose. À droite et puis à gauche et puis à droite. Comme ça. En arrière, jusqu'à terre, vous voyez, elle est déjà comme un vieillard, ah ah ah, oh, oh. Vous ferez comme il vous plaira, voyez-vous, je n'attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux, et puis je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard, et alors, oh, alors. Simplement parce que c'est l'usage. Quand il est donc, il est ivre.
Non, non, mais il ne m'aime.
Claudio Abbado à la tête de l'orchestre philharmonique de Vienne dans cet enregistrement de Pelléas et Mélisande de Debussy avec Maria Ewing dans le rôle titre, José Van Damme en Golo et Jean-Philippe Courtis en Arkel. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chemchak, c'était bouleversant tout ça. Hein.
Musique sublissime.
Oh là là.
Demain on continue, dites-moi. Oui absolument, avec Fanny dans Les Indes Galantes, Suzanne dans Les Noces de Figaro ou encore Gilda dans Rigoletto, que des classiques.
Merci, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.